Donc pour commencer, est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous habitez Orléans ?
Toujours. Je suis née Orléans, oui. Parce que, en fait, mes parents étaient agriculteurs, enfin vignerons même au départ, depuis l'époque de Jeanne d'Arc.
Ah,
ma sœur a fait l'arbre généalogique jusqu'en 1500 et quelques, tous habitant la Croix-Fleurie ou la Barrière Saint-Marc, vraiment le quartier. Depuis 500 ans. Donc c'est même, incroyable.
Même pas de variation dans Orléans, c'est vraiment le même quartier.
Oui, même le quartier et la même profession. C'est intéressant de voir ça, quoi, parce que c'est assez rare quand même. Et alors, ce qui est curieux, c'est que depuis donc 5 siècles, tous. Vignerons ou après arboriculteurs vu le changement des cultures, mais là en une génération il n'y a plus personne. On est pourtant j'ai 41 cousins germains du côté de ma maman et une vingtaine du côté de mon papa, dont tous les parents étaient dans la culture, et là il n'y en a plus que deux.
Voilà.
C'est impressionnant la coupure qu'il y a eu en une génération. Et c'est vrai qu'en discutant avec des gens, beaucoup ont eu des parents, des grands-parents, cultivateurs ou paysans. Il y a un grand changement, à mon avis, à ce niveau-là.
C'est peut-être dû au fait aussi que tous les... Enfin, comme le quartier qui s'appelait, enfin, qui s'appelle rue des Pommiers, rue des Pruniers, rue des Pêchers, c'était tout des vergers.
Oui,
maintenant,
oui,
ça
oui bien sûr. Oui. Moi, ici, c'était une vigne. Quand j'étais petite, je venais vendanger ici avec mes parents. Et c'est parce que la terre était... Mon père nous a laissé le champ et donc on a pu construire là. Mais c'était... Rue de l'Argonne, on avait une grande vigne aussi, à la place de la gendarmerie.
Ah, d'accord.
Ah oui, c'était très...
Tout le quartier, en fait, c'était des vergers, des vignes.
D'ailleurs, là, si c'est construit dans le lotissement, c'est parce que les terres sont friches, mais c'était des champs. Il y a encore des cognassiers qui poussent, parce que quand un poirier se... vieillit sans entretien, il revient à son origine qui est un cognassier, parce que mon père greffait des poiriers sur des cognassiers.
Ah, je savais pas.
Ouais.
Ça. Et le quartier alors s'appelle c'est la Croix-Fleurie en fait ce quartier.
Oui, par là c'est la Croix-Fleurie, puis par ici c'est il y a le Champ Chardon. La rue du Champ Chardon, c'était le Champ Chardon. Puis chaque champ avait un nom.
Et donc là, cette maison, vous y êtes depuis combien de temps ?
Depuis 1968.
Donc vous avez dit que c'était sur un terrain qui appartenait, enfin c'était dans la famille, le terrain appartenait
à mon père qui l'a partagé en deux, à côté pour ma sœur, et puis moi, l'autre partie. Et puis, il nous l'a donné en avance sur l'héritage, quoi. Puis après, ça s'est arrangé au moment de la succession. Ça nous a permis de construire.
D'accord. Et donc, avant, vous étiez à quel
endroit ? J'habitais Faubourg Saint-Vincent. Mais c'était pas facile à cette époque de trouver des appartements. Quand je me suis mariée en 54, c'était vraiment très très difficile de trouver des appartements parce qu'il y avait les Américains qui occupaient beaucoup d'appartements, de logements, et comme ils payaient bien, les propriétaires préféraient louer à eux. Et c'était difficile. Mais bon, on avait trouvé un petit appartement, mais il y avait les toilettes dans la cour, il n'y avait pas d'eau chaude, il y avait... Enfin, je sais bien qu'à cette époque-là, mais quand même, c'était pas facile. Les enfants.
Et donc avant, avec vos parents, vous habitiez
aussi,
dans le quartier
aussi. Oui, à la Croix-Fleurie, oui, Faubourg Saint-Vincent. C'est bien que j'ai rayonné dans, toute ma vie dans un rayon de 2 km. J'ai toujours été sur place. ouais. Par le hasard, quoi, parce que j'ai eu la chance d'avoir le terrain. Et puis bon, je m'en plains pas, voilà. Je fais pas attention. Je m'en plains pas, je me suis toujours bien plu.
Et votre mari, il était dans l'agriculture ou pas?
Non, pas du tout. Non, non, il est de Saint-Benoît-sur-Noir.
Ah, c'est pas du quartier.
Non, c'est pas le quartier. Loin. C'est pas le quartier. Non, on s'est rencontrés, on était moniteurs de colonies de vacances dans la même colo, puis on s'est connus comme ça.
Et vos enfants, il n'y a personne qui a voulu reprendre le flambeau de...
Non. Non.
Enfin, vos parents, ils avaient une ferme ou c'était...
Non, c'était de la culture d'abord de la vigne et puis après des arbres fruitiers. Mon frère aîné était resté dans la culture. Il est décédé maintenant, mais il était resté dans la culture. Parce qu'en fait, c'était mon demi-frère. Parce que mon père a été veuf quand il était tout petit, quoi. Et donc, comme il a, lui, hérité de ses grands-parents, il était le seul petit-fils, donc il avait des terres, et puis il aimait beaucoup ça, il n'a pas voulu continuer l'école, donc il a continué dans la culture. Mais il n'y a plus personne.
Non, maintenant, je pense qu'il faut aller sur Olivet, en fait, pour avoir des,
oui, des vergers. Oui, Saint-Hilaire-Saint-Mémin aussi, il y a beaucoup de cerisiers par là. Ou alors après, bah, c'est la grosse culture, ou l'élevage, les choses comme ça.
Ah oui, il y a eu un sacré changement là dans le quartier.
Ah oui. D'ailleurs, on s'appelle... Et quand j'étais jeune, il y avait dans la Croix-Fleurie, entre le pont Saint-Vincent et la Croix-Fleurie, il y avait 12 familles. Les cousins, les grands-parents, les oncles et tantes, enfin, on était nombreux. Oui.
Et vos enfants, vous en avez, vous m'avez dit au téléphone, 4, c'est ça?
Oui, j'ai 4 enfants, oui.
Et ils font quoi comme métier?
Eh bien, j'ai 3 filles dans l'enseignement. L'aînée, elle a son agrégation. Elle avait fait SUPELEC après MATSUP et MATSP. Et puis, comme elle était, à cette époque-là, c'était déjà difficile pour les filles d'être ingénieure. Et puis, elle était un an en avance, donc elle avait 22 ans quand elle avait son diplôme, elle ne trouvait pas de travail. Et à ce moment-là, il y avait une mesure pour de l'État, ça s'appelait les TUC. Travail d'utilité, je ne sais plus comment, enfin bref. On était payé 75% du SMIC pour faire... en fait, l'employeur, il payait rien. C'était l'État qui payait 75% du SMIC. Alors, comme elle avait fait son stage d'école dans la recherche médicale, l'INSERM, à Paris, quoi... Et que à la recherche médicale, ils n'avaient pas de budget, ils n'avaient pas d'argent. Ils lui ont proposé un truc. Alors elle a dit, je veux bien, mais avec le salaire d'un ingénieur, ça représente une journée par semaine. Il était au culot. Alors ils ont dit, ben oui, c'est toujours ça. Vous pourrez continuer de travailler sur votre projet. Donc le reste du temps, elle a préparé son agrégation. Et puis comme ça, elle était dans l'enseignement après. Donc elle est prof à Fontainebleau. Oui, elle a des BTS en électronique. Voilà. Alors la deuxième, elle est prof de maths au lycée Jacques Monod à Saint-Jean-Bray. Donc elle a aussi son agrégation, mais de maths.
C'est la première est prof de...
D'électronique. Donc la deuxième est prof de maths, c'est aussi une scientifique. Et puis, alors elle était furieuse parce qu'elle voulait vraiment être professeure de maths. Et puis, à Normale Sup, quand elle a passé le concours, elle était la première sur la liste d'attente. Donc elle s'inquiétait pas trop, elle se disait, je vais avoir une place. Puis elle n'a pas eu de place, il n'y a pas eu de désistement. Donc en dépit, elle avait commencé une école d'ingénieur, puis ça ne lui plaisait pas. Donc elle a préparé son agrégation à la fac. Et puis elle l'a eu tout de suite. Je pense qu'en maths et en physique, il y a plus de place que dans les matières littéraires à l'agrégation. Enfin, où elles ont eu de la chance, mais bon. Donc, elle enseigne à Jacques Monod. Et elle est... Elle fait un peu de recherche aussi, ça s'appelle l'IREM, l'Institut de Recherche en Enseignement Mathématique. Et elle est passionnée par les nouvelles méthodes, enfin, qu'elle aimerait voir pratiquer. Elle prétend que tout le monde peut comprendre les maths, et elle est passionnée par son travail. Elle aime bien. Voilà. Et curieusement, elle habite à côté de chez moi, tout à fait par hasard aussi. Elle habitait un appartement à Saint-Jean-de-Brest et quand elle a fini de payer ses remboursements, elle cherchait une maison. Et un jour, je vois à côté une maison à vendre. Alors je lui dis, écoute, tu devrais aller voir, ça a l'air bien cette maison. Alors elle la voit d'extérieur, puis elle dit non, c'est pas ça qui me plaît. Et puis l'agence avec qui elle avait déposé sa demande, lui dit un jour, tiens, je crois qu'on a trouvé une maison qui vous convient. C'était cette maison-là. Alors ils l'ont fait visiter et c'était tout à fait ce qu'elle voulait. Elle voulait un jardin parce que, enfin, il y avait tout. Mais d'extérieur, c'est sûr que l'entrée sur la rue, il n'y a pas d'entrée, il y avait les trois fenêtres et puis le portail, on ne voyait rien, quoi. Donc elle est près de chez moi, je suis bien contente, puis elle aussi. Alors mon troisième, Vincent, lui il est ingénieur, il est chercheur à EDF, aussi en électricité plutôt. Voilà, et la dernière, elle a son CAPES d'anglais, elle est prof d'anglais.
Quelqu'un de bien, donc, si elle fait de l'anglais.
Alors elle, c'est pareil, c'est depuis la sixième, elle avait eu un prof très... Enfin, qui l'avait accroché, et depuis la sixième, elle voulait être prof d'anglais. Puis moi qui travaillais à la NPE, je lui disais, mais tu sais, quand elle voulait faire sa licence d'anglais après le bac, je lui dis, tu sais, moi je voyais tellement à la NPE des jeunes qui avaient leur licence d'anglais, puis qui ne trouvaient pas de travail parce qu'ils n'avaient pas autre chose, et puis ils n'avaient pas envie de faire de l'enseignement. Ça ne suffisait pas, quoi. Alors, on s'est un petit peu fâché à ce moment-là, mais bon, elle a tenu bon, elle a eu raison, parce que... Elle a passé son CAPES, et puis le prof d'anglais, ça lui plaît beaucoup. Mais elle vient encore d'un séjour en Angleterre, parce qu'elle pousse un peu les voyages scolaires en Angleterre, elle fait beaucoup d'échanges.
Elle enseigne à quel endroit?
Alors, elle est maintenant à Pornic. Elle était à Nantes, et puis, comme son compagnon a acheté une maison près de Pornic, elle a eu facilement son... Puis c'est un petit lycée un peu plus calme qu'à Nantes, parce qu'à Nantes, c'était vraiment les manifs tout le temps. C'était pas évident. Voilà, mon quatuor.
Oui, bah une belle famille.
Oui, ils ont bien travaillé.
Et ils ont été dans quel établissement?
Janzé, et puis après Potier pour les classes. Oui, Janzé, surtout Janzé.
Et au niveau des...
Ah non, j'étais allée à Potier dès le début parce qu'elle faisait la section musique. Il y avait qui se faisait à Potier, je crois. Mais les autres, c'était à Janzé.
Sinon, pour les écoles dans le quartier, c'est...
C'était la barrière Saint-Marc, là, à côté.
Et le quartier est agréable à vivre, que ce soit pour vous ou pour les enfants quand ils étaient petits?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et même parce que quand ils étaient petits, il y avait deux cités d'urgence. Là, à la place de la maison de la Belle-Croix, puis une autre quelques mètres plus loin. Donc il y avait quand même un milieu d'enfants un peu défavorisés. Mais ils ont été habitués. Parce que, bon, dans les classes où ils étaient, aussi bien au collège, avec quand même une certaine élite, parce qu'ils étaient dans les classes...
Scientifiques.
Scientifiques. Non, mais même au collège, c'était... Il se trouvait avec un milieu un peu bourgeois de la ville, disons. C'était pas notre milieu, nous, tellement on est plus porté sur le monde ouvrier, mais bon. Et là, c'était vraiment le contraste complet, le quartier. Mmh. Mais ils ont tous fini par être aussi bien à l'aise dans un milieu que dans l'autre. Enfin, ils sont ouverts à tout. Je trouve que ça a été très positif dans l'éducation des enfants. Mmh. Ouais, ouais. Mais et puis ils venaient. J'ai vu une fois un jeudi matin, c'était jeudi à ce moment-là, les congés, ouvrir mes volets là, puis voir 5 ou 6 gamins dans la cour au portique qui étaient en train de jouer. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, c'est chez moi, je n'ai pas encore ouvert mes portes. Alors, ils me disent, ah ben on croyait que c'était le jardin public, parce qu'ils venaient jouer tous les soirs avec mes enfants, et puis, donc c'était. Nous, on a toujours essayé d'être assez ouvert à tout le monde, puis c'était bien.
C'est cité d'urgence là que vous appelez, c'était pour des enfants qui étaient placés ou que...
Non, c'était encore une catégorie plus basse que les HLM.
Ah,
c'était des gens qui ne pouvaient pas payer, c'était pratiquement des baraquements. Enfin, pas des baraquements, c'était quand même des constructions dures, mais vraiment avec un minimum de confort. Et puis, des gens vraiment qui avaient des grosses difficultés. Hein. J'ai vu une fois une dame venir sonner, son mari la battait, il a fallu qu'on l'emmène au commissariat. Et puis curieusement, des fois, on entendait crier, puis 5 minutes après, ils étaient tous les deux à la fenêtre. C'était curieux. Ouais, c'était... Ouais.
Et au niveau du milieu associatif, il y a des choses dans le quartier
ou... Le quartier proche, là, non, il faut que j'aille sur l'Argonne, plus centré autour de la mairie. Alors là, il y a beaucoup d'associations.
Et pour les enfants, il y avait du sport ou... C'est pareil, il fallait aller soit Barrière Saint-Marc, soit sur l'Argonne.
Oui, du sport, oui, même ils allaient... Blandine, elle devait faire du volley dans le cadre du collège, je pense, ou du lycée. Agnès, elle faisait quoi? Elle allait en centre-ville, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Du basket, oui. Vincent faisait de la natation au palais des sports. Odile, je ne me souviens plus, je ne sais pas qu'elle faisait grand-chose. Mais ce n'est pas des grands sportifs, mes enfants. Non, pas trop.
Enfin, il y avait de quoi les occuper, s'ils voulaient.
Ah ben oui, puis ils ont fait de la musique, ils sont allés tous au conservatoire. Donc, nous sommes blondines, parce qu'elle avait commencé le piano, puis... Mais Odile a fait de la flûte traversière, et Vincent de la guitare, Agnès la clarinette.
On peut monter un orchestre.
Donc, le soir, quand ça répétait, je me débrouillais. Mais ça, c'est peut-être une frustration de ma part, parce que comme j'aurais aimé apprendre la musique et que je n'ai jamais appris, je les ai un petit peu poussés à ça. Bon, puis, si vous voulez, continuez, si vous voulez, vous pouvez s'arrêter. Hein. Mais Vincent, il fait partie maintenant d'un petit orchestre là, sur Paris, et ils se produisent des fois, enfin c'est du rock, mais c'est lui le chanteur, et puis...
Ah, comme quoi, ça valait la peine de le
pousser. C'est vraiment, d'ailleurs, il dit sa soupape, hein, parce que les répétitions de vendredi soir, ça le délasse de toute sa semaine de travail. Agnès, c'est pareil, elle continue la clarinette. Voilà.
Et pour tout ce qui est commerce, courses.
Oh, il n'y a pas grand-chose.
Ça a changé au cours des années ou il y a
jamais. Il y a la Croix-Fleurie, mais maintenant il n'y a plus d'accès d'ici. Il y avait une petite venelle là qui conduisait à la Croix-Fleurie, donc j'y étais en 5 minutes. Mais maintenant. C'est plus accessible à cause des travaux. Je crois qu'après, il y aura une rue. Mais... Oh non, il faut que j'aille soit sur l'Argonne, soit sur Fleury. Ou à la Barrière Saint-Marc, il y a 2 boulangers, mais c'est tout. Niveau commerce.
Si, ils prévoient, je crois, de faire à la fois des habitations et des commerces. Et pour les supermarchés, vous allez...
Bon, moi, je vais à Carrefour Market, à Lamballe, sur Fille, une fois par semaine. Donc, je peux conduire. Mais c'est sûr que sans voiture, c'est pas évident. Bah, pour ceux qui n'ont pas de voiture.
C'est vrai que là, c'est un peu à la croisée des chemins. Vous n'êtes pas loin de l'Argonne, pas loin du Faubourg Saint-Vincent, mais il y a Fleury quand même à côté aussi.
Oui, mais bon, il faut quand même...
Il faut pouvoir se déplacer.
Il faut pouvoir se déplacer.
Et donc, au niveau de votre... Enfin, maintenant, vous êtes retraité, mais au niveau de votre métier, est-ce que vous pouvez me... Dire un petit peu ce que vous avez fait.
Après mon bac, il fallait que je travaille, parce que mes parents, ils s'étaient vraiment donné du mal pour que j'aille jusqu'au bac, mais il fallait absolument que je travaille. Alors j'ai préparé propédeutique par correspondance. Propédeutique, c'était à ce moment-là un examen qui correspondait à la première et deuxième année de licence. C'était un examen qu'il fallait passer avant la licence. Donc, tout en préparant propédeutique, je donnais des cours. J'ai d'abord fait un peu une école primaire, puis après j'ai donné des cours de latin et grec, parce que j'aimais assez ça. Puis bon, les premières années, avec propédeutique, ça allait. Mais j'étais dans l'enseignement privé, donc ils n'étaient pas exigeants pour les diplômes. Donc, voilà. Et puis, une fois mon mariage... Quand il a fallu trouver, j'ai eu Blandine un an après, et s'il fallait que je paye une nourrice, j'étais tellement peu payée que ça n'avait aucun intérêt que je continue. Donc j'arrêtais de travailler en faisant des petits boulots par-ci par-là, soit des remplacements des fois à l'école, comme j'habitais en dessous de l'école, pour quand il y avait un prof malade, où j'ai donné quelques cours particuliers. Après, quand les enfants grandissent, ils allaient aux activités au centre social de l'Argonne, et puis moi, j'assurais, j'étais, comment on dit, monitrice d'un groupe d'enfants, pour les faire bricoler, des choses comme ça. Quoi. Enfin, je faisais des petites choses à droite, à gauche. Puis surtout, je m'engageais dans des associations. Les parents d'élèves, les conseils de classe, tout ça, c'était le début à ce moment-là. Je me suis lancée un peu dans tout ça. Les travailleuses familiales aussi, je m'occupais de leur formation. Les associations, je faisais beaucoup de bénévolat déjà.
Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez rencontré monsieur, si c'est après, mais ça me fait penser sa femme.
Je suis toujours avec elle au réseau d'échange de savoir. Je m'occupe beaucoup de ça. Je fais du soutien scolaire, de l'alphabétisation, et puis la marche de l'association. Quoi. J'ai dit je suis la roue de secours parce que je ne veux plus être dans le bureau, mais en fait je suis pas mal occupée. Mais ça me plaît.
Vous avez une vie associative assez chargée. Et donc, vous avez trouvé votre emploi à la NPE.
Oui, c'est ça. Oui, quand Agnès s'est rentrée en sixième. Oui, c'est ça. Bon, Agnès, je voyais qu'elle se débrouillait toute seule, elle était très autonome, j'avais jamais... D'ailleurs, mes enfants, je m'en suis jamais occupée pour leurs devoirs et leurs leçons. Hein. Éventuellement, ils voulaient que je leur fasse réciter. Bon, je leur faisais réciter, mais vraiment, ils ont été vraiment consciencieux tout de suite. Enfin, il y avait des règles, hein. Bien sûr, après le goûter, ils pouvaient un petit peu se détendre, mais après, travail. Hein. Puis... Donc, quand j'ai vu qu'en sixième, elle pouvait absolument être assumée toute seule, j'ai passé un concours pour rentrer à la NPE, et je l'ai eu, donc je suis rentrée à la NPE à ce moment-là. Puis surtout que Blandine commençait les études supérieures, et que Après, à tour de rôle, il y avait la... les loyers et tout ça à payer. Hein, pour... c'est pas vrai. Mais...
C'était
donc...
la NPE à Orléans. Et là, vous faisiez quoi?
Alors, j'étais embauchée conseiller professionnel. Non, ça c'était à la fin. J'étais d'abord prospecteur placier. Alors, c'était en 77. Donc, c'était encore l'âge d'or, quoi. Parce qu'on arrive à trouver du travail aux gens. C'était agréable, c'était vraiment gratifiant, quoi. Parce qu'on les suivait, on les connaissait bien. On allait dans les entreprises, mais bon, on avait un bon accueil. J'ai vu vraiment la dégradation après. Alors ça, j'ai été 5-6 ans. Après, j'ai passé le concours pour être chargée d'information. Donc là, je me suis plus occupée des formations pour les gens et puis l'information du personnel. Je rangeais la documentation, j'informais tout le monde. Enfin, j'aimais bien aussi. Et puis après, j'ai repassé un troisième concours. Je suis devenue conseiller professionnel. Donc là, c'était plus des entretiens plus longs, enfin, un suivi de... On avait moins de personnes à suivre et on suivait plus le parcours. Mais bon, j'étais contente de partir à la fin parce que ça devenait vraiment difficile. Parce que j'étais plus chargée de... ça s'appelait le... Enfin, les gens qui étaient licenciés économiques et qui avaient certains droits. Et donc, j'allais à Pithiviers, à Gien, à Montargis, toutes les semaines, pour les suivre. Et puis, bon, ça devenait de plus en plus dur de les reclasser. Donc, c'était dur. Hein. Mais bon, je ne regrette pas ce travail, au contraire. Donc maintenant, je suis à la retraite.
C'était à quel endroit dans Orléans le...
Alors au départ, c'était boulevard Châteaudun. Je crois qu'elle existe. Ah non, elle n'existe plus. Je ne sais plus. C'était boulevard Châteaudun. Et puis après, quand j'ai fait mon dernier emploi, c'était rue des Maltetiers. La section uniquement pour les licenciés économiques.
Et vous restiez sur place toute la journée ou vous rentriez chez vous manger ou...
Ben au départ, je mangeais à la cité Coligny, là. Oui, les Maltetiers, voilà, que je ne me rappelle plus. Je devais rentrer, là, oui, je rentrais. Ben oui, puis mon mari, après, il était à la retraite longtemps avant moi, alors... il me préparait le repas, je n'avais plus qu'à me mettre les pieds sous la table. Mais bon, quand j'étais en déplacement, je mangeais... sur place, là-bas, à Chien, Pithiviers, Montargis. Je venais à Montargis tous les vendredis.
Puis... Ça faisait quand même du trajet, des déplacements.
Ouais.
Donc c'était plus facile parce que les enfants étaient plus
loin. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et donc maintenant, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de... d'être conseillé à la NPE ou est-ce que vous pensez?
Non, d'après ce que j'entends, c'est invivable. Les anciens collègues que je vois des fois, des gens qui travaillent, c'est impossible que ça marche. Déjà, depuis que c'est relié à la CEDIC, les systèmes informatiques sont différents. Ils n'ont pas unifié le même système informatique, donc ça complique les choses. Ils ont tant à faire, vraiment, faut que l'entretien dure pas plus de tant de minutes. Enfin, c'est vraiment des conditions de travail déplorables. Pour les demandeurs d'emploi, ça ne doit pas être drôle. C'est pas drôle pour le personnel, mais les demandeurs d'emploi... Non.
Oui, quand vous travaillez et puis que vous aviez la satisfaction de pouvoir placer quelqu'un, c'était gratifiant.
Ah ben tout à fait, oui. On peut dire que chaque jour, je me rappelle, je me disais chaque jour, tiens, ben tel, il est placé, quoi. Et je revois encore dans le... Oui, à Carrefour et puis à Intermarché aussi. J'ai vu longtemps des gens que j'avais placés là, mais qui étaient vraiment, qui maintenant sont des gens, comme ils s'étaient présentés à ce moment-là, qui ne peuvent plus trouver de travail, hein, parce qu'il faut tellement de critères maintenant. Et je vois qu'ils remplissent les rayons, ou ils font du nettoyage, tout, mais je vois qu'il y en a qui sont placés, qui tiennent le coup.
Oui, c'est vrai que maintenant ça va être difficile.
Oh là là, ceux qui n'ont pas de. Qui n'ont pas pu suivre d'études, puis qui n'ont pas de métier en main, c'est difficile.
Et votre mari, vous m'avez dit qu'il faisait
Il travaille à la SEDECLI.
Ah, bah c'était le
Tout à fait par hasard, hein, parce que à ce moment-là, ça n'avait pas tellement de lien. Et puis bon, moi j'avais vu, je cherchais toujours à trouver un travail, mais bon, avec mon seul bac, quand j'avais vu un jour sur le journal que l'ANP recrutait sur concours, je lui ai dit, tiens, j'ai bien envie d'essayer. Il m'a dit, si tu veux, pourquoi pas. Et puis, quand j'ai passé le concours, j'ai vu, je sais pas, on était une centaine de personnes dans la grande salle, et puis plein de jeunes qui sortaient du bac ou de. Et je me disais, bon, bah, c'est fichu, je vais pas l'avoir. Et puis, comme le texte, en fait, ça nécessitait plus de connaissances du monde et des métiers. Je pense que j'ai eu plus de chance qu'eux parce que j'avais une certaine expérience. Surtout que, bon, j'étais syndiquée et tout ça. Mon mari, il a été longtemps permanent syndical, donc on connaissait un peu la vie et quoi. Je pense que ça m'a. Enfin bref, j'ai été prise, donc j'étais bien contente. Oui, je me suis bien. C'est pas évident, j'avais quand même. Quel âge j'avais? Elle est rentrée en sixième, donc elle est de 66, 76, j'avais. Oui, j'avais 45 ans. Presque 50.
Mais là, c'est le, oui, c'est la connaissance qui a.
Oui, je pense. Puis j'avais. Ah oui, je me rappelle, c'était sur le métier manuel, le métier. Enfin, c'était une phrase qui disait que le métier manuel était pas plus était aussi bien que le métier intellectuel. Enfin, je sais plus comment c'était tourné. Donc j'avais pas mal d'exemples dans la vie, quoi, de gens qui se sur l'intelligence manuelle. Moi, c'est vrai que quand je vois mon plombier qui en plus c'est mon petit neveu. Qui à l'école a toujours été nul, et puis comme il a une certaine intelligence, ma chaudière est en panne. Il me dit, tu sais, j'ai jamais réparé ce genre de chaudière, c'est une chaudière à air chaud, ça se fait plus. Moi, j'ai pas appris ça dans mon apprentissage, mais il me dit, passe-moi la notice, je vais me plonger là-dedans. Alors un truc, moi, je comprends rien. Au bout d'un quart d'heure, il a vu ce qu'il fallait faire. Et ben, je dis ça, c'est une forme d'intelligence. Hein, c'est pas bien qu'il soit. Donc ça, j'y crois beaucoup.
Ah bah oui, on a besoin de tous ces métiers
manuels.
Mais.
Oui, faut pas.
Et donc donc maintenant vous ne travaillez plus, mais vous êtes encore bien occupé, donc vous participez à l'association là sur les réseaux du savoir.
Oui, beaucoup, oui.
Donc vous.
Donc je tiens une permanence tous les mardis après-midi. Le lundi, j'ai deux dames sénégalaises qui apprennent le français. Le mercredi, j'en ai une autre, là, cet après-midi. Je fais parfois du soutien scolaire, là j'en ai pas parce que le petit garçon il était plus motivé. J'ai dit on arrête parce que moi je veux bien faire du soutien scolaire, mais il faut que ce soit pas les parents, faut pas que ce soit les parents qui le poussent. S'il n'a pas envie, tant pis, c'est dommage. Voilà, et puis bon, je suis la comptabilité, puis comme je manie pas mal d'ordinateurs, c'est moi qui envoie les mails et les convocations, enfin, je fais des comptes rendus, enfin, il y a beaucoup de tâches à côté qui font qu'on est toujours occupé. Bon, ça me plaît bien.
Oui, je pense que l'ordinateur, enfin, vous avez dû vous en servir quand vous étiez à la NPE.
Non,
non,
non, non,
pas
non.
Encore.
Ah, non, 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 non.
Donc vous êtes formée toute seule.
Oui, oui. C'est-à-dire que quand ma fille qui habite à côté a changé d'ordinateur, elle m'a donné son vieux. Donc elle m'a montré petit à petit le minimum, quoi. Et puis après, je m'y suis mise. Et puis bon, pour mes 75 ans, mes enfants m'ont offert un nouveau. Donc j'ai... Mais bon, comme, quand j'ai un problème, je lui téléphone ou elle passe me voir et puis elle m'explique, je note à chaque fois, comme ça j'ai mon petit document où il y a tous les problèmes qui peuvent arriver. Mais bon, j'aime bien. Hein.
Vous allez sur Internet aussi
ou... Oui, oui, oui. Parce que je fais partie d'une association aussi qui s'appelle la Coordination pour la paix et la non-violence. Et donc j'envoie les... J'ai fait un envoi d'ailleurs ce matin pour les transmettre les vœux puis le calendrier des activités. Et c'est moi qui suis chargée de ça, quoi. Ça soulage les responsables qui mènent un petit peu les réunions et tout. Moi, c'est une tâche toute bête, quoi, mais ça leur rend service. Quoi.
Et donc, à votre travail, il n'y avait pas de... C'était pas encore les ordinateurs?
Non, il y avait le Minitel. Il n'y avait pas d'ordinateur. Oui, j'ai arrêté en 80... Voyons, j'avais 62 ans, 93, oui. Ça fait déjà... 17 ans, 18 ans.
Donc, vous faites vous avez une retraite active alors,
Oui, tant que je peux.
Et donc, quand vous n'êtes pas à l'association, le week-end, par exemple, vous occupez vos week-ends de quelle façon?
Ben, je vais beaucoup voir des amis qui sont un peu isolés. Donc, en ce moment, c'est la période où je vais à droite à gauche. Bon, ben, puis je vais chez ma fille, je vais chez des fois à Fontainebleau, chez mes enfants, où ils viennent. J'aime bien broder aussi, donc je brode un petit peu. Je lis beaucoup. Non, mais je m'ennuie pas.
Et au niveau de la vie culturelle à Orléans, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment
ça, de choses? Je ne me rends pas compte. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais bon, je ne vais plus au théâtre. Cinéma, je n'y vais pas souvent, de temps en temps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas trop... Je ne sais pas trop.
Mais vous n'y allez pas trop
Non.
Et je ne sais pas, vous vous promenez sur les quais, des fois
Oui, des fois, oui.
Non, c'est par rapport à les embellissements, entre guillemets, de la ville d'Orléans. Est-ce que vous pensez que...
Ben, je vais plutôt vers Combloch, ici, par là, au bord de Loire. Mais centre-ville, j'évite. Déjà, je n'aime pas conduire en ville. Je prends le tram quand j'y vais, parce que, surtout en ce moment, hein, c'est pas, il n'y a pas de stationnement. Tout. Je prends le tram.
À bientôt. Ah oui, je me rends pas compte, parce que j'allais dire bientôt, ce sera plus pratique, parce qu'il y a le tram qui va passer, mais enfin, ça fait quand même un bout de chemin.
Ah oui, non, moi je le prends à Lambert, à Fleury. Donc...
Parce qu'elle est longue, la rue du Poirieron, donc il faut tout redescendre pour aller...
Oui, non, non, l'autre ligne, ça ne me servira à rien. Non, je prends le bus au bout de la rue, ça dépend du jeu.
Et vous regardez beaucoup la télévision, vous écoutez la radio,
j'écoute un peu France Inter, surtout pendant les repas, quoi, parce que... Quand on est tout seul, on n'a pas beaucoup de conversation, donc j'écoute toujours la radio pendant les repas. Puis la télé, pas beaucoup. Le jeu, un peu, quand je suis là, le soir. Ça tourne. Les chiffres des lettres, qu'est-ce qu'il pourra changer. Puis quand il y a quelque chose à prédire, pas souvent.
Vous êtes raisonnable.
Oui.
Et au niveau de la lecture, vous lisez un quotidien régulièrement
ou... Non. Non, mais j'ai les journaux des associations, j'ai pas mal aussi de journaux comme Amnesty International ou des Médecins sans frontières, enfin plein d'organismes comme ça, et des journaux syndicaux. Autrement, je sais pas spécialement.
Et pour les vacances, enfin, quand on est retraité, on est toujours en vacances, mais pour vous, c'est pas trop le cas parce que vous avez une semaine chargée.
Oui.
Et vous parlez l'été, vous partez en vacances.
L'été, je pars tous les ans un séjour. Je sais pas si vous connaissez l'association Locage à Orléans. C'est une association qui. De tourisme populaire et d'éducation populaire qui organise. Alors d'ailleurs, je m'occupe d'une équipe qui prépare des rallyes et par exemple, là, on prépare une soirée récréative pour des personnes âgées. Chaque fois sur un thème, en faisant des jeux, par exemple, là, on a choisi comme thème la région centre. Et bon, moi j'étais chargée de faire un jeu sur les personnages de la région centre. Donc avec internet, j'ai recherché tous les écrivains de la région centre. Il y en a beaucoup, j'en ai retenu une quinzaine. Et alors on fait un petit jeu. J'ai préparé trois définitions pour chaque. Une difficile où ils ont 3 points parce qu'il faut bien faire des petites concurrences. Alors on a des petites boules là. Et puis on leur donne une un peu moins difficile, et puis la troisième très facile pour que tout le monde gagne, quoi. Alors, que ce soit François Villon, Charles Péguy, enfin tous les écrivains qui ont soit nés, soit morts, soit qui ont vécu dans la région centre. Et puis alors l'autre jeu que j'ai à préparer, c'est j'ai fait une grande carte de la région. Et puis j'ai mis des points, et puis une liste de villes, il faut qu'ils situent les villes. Mais j'étais frappée comme quoi beaucoup de gens ne savaient même pas dire les départements de la région, des choses comme ça.
Ah, ouais. Même parmi les personnes plus âgées qui sont censées connaître les
départements. Oui. Donc ça aussi, ça m'occupe pas mal, mais bon, c'est aussi... Puis alors après, l'été, on fait un petit rallye à la découverte d'une commune. Alors, l'année dernière, on a fait Saint-Hilaire-Saint-Mumay. Alors, découverte de la vieille ville, et puis découverte des bords du Loiret. Et puis, des petites questions sur le parcours.
C'est une association qui est réservée aux personnes âgées ?
Non. Là, le rallye, c'est ouvert aux familles, et puis... On est plusieurs équipes. Il y a une équipe qui fait vraiment que pour les personnes âgées où ils font une activité par mois. Par exemple, là, ce mois-ci, ils vont faire la visite d'un artisan verrier. Et puis, qu'est-ce qu'ils font aussi? Au mois de janvier, ils font un repas convivial, un repas de début d'année. Et puis, ils font aussi des visites comme ça dans le Loiret ou un peu plus loin. Et puis donc, il y a une autre équipe qui prépare les vacances. Et alors, en vacances, on a un séjour d'une dizaine de jours dans des villages de vacances, mais avec un programme de découverte et d'excursion incroyable. On a tous les jours... Là, on vient de faire le Beaujolais avec Lyon et tout ce qu'il y a autour de Lyon. On a fait plein de choses, de visites et tout. C'est très, très intéressant.
Et vous avez déjà pris des vacances à l'étranger
ou... Oui, quand il y avait mon mari, puis même après, oui. Même après son décès, j'allais avec ma sœur. Oui, j'ai fait pas mal de pays.
Parce que je vois une poupée africaine derrière. Donc je
ah ben ça, c'est... Non, c'est la petite dame que je fais travailler, ah, qui est sénégalaise, c'est... et qui, quand elle est revenue du Sénégal, elle m'a offert cette petite... C'est fait à la main par les gens du pays. Non, je ne suis pas allée au Sénégal. Je suis allée en Égypte, et puis... En Grèce, en... En Italie, j'ai fait les capitales de l'Est, j'ai fait la croisière sur, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne.
Vous avez pas mal voyagé.
Oui, 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 oui. J'ai pas mal d'albums photos. Mais maintenant, je me contente de la France. Hein. Je n'ai pas envie de faire un grand voyage.
Et au niveau des manifestations à Orléans, est-ce que vous allez quelquefois aux fêtes de Jeanne d'Arc ou au festival de jazz?
Non, les fêtes de Jeanne d'Arc, je n'y vais pas. Je les ai trop fait en temps jeune. Ça finissait par être la corvée parce que pour mes parents, c'était sacro-saint. Mais... Je me rappelle que quand je préparais mon bac, j'ai enfin réussi à ne pas y aller en disant que j'avais beaucoup de révisions à faire. Et puis, non, je n'accroche pas trop, mais bon, non, le jazz, je ne connais rien. Non, je suis plus aux manifestations pour les retraites et, ou contre les sans-papiers, choses comme ça. Je vais au cercle de silence aussi tous les mois, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Tous les mois, il y a le premier mardi de chaque mois, entre 18h et 19h, sur la place du Martroi, il y a un cercle de silence. On est une centaine, 80 à 100 personnes qui manifestent silencieusement pour les conditions de détention des sans-papiers qui sont... Et puis pour toutes ces actions pour eux. Et c'est assez impressionnant pour les gens qui passent de voir ce cercle avec les. Et on est silencieux, on a simplement un dossard qui explique notre action, quoi. Et puis les gens s'arrêtent, certains viennent se joindre ou s'intéressent.
Donc vous défendez oui, pas mal de nombreuses causes. Donc vous avez dû manifester il n'y a pas longtemps. Là.
Pas mal de fois, oui.
Bah oui, contre la réforme bien, des retraites.
Ouais, et ouais. Dès qu'il y a.
Et j'ai une petite question sur la rumeur d'Orléans. Est-ce que ça vous dit
quelque chose? Ah oui, j'en ai le souvenir. Oui, ça c'est vrai. Je me souviens que. Ben, on finissait par y croire, parce que je me souviens d'une réflexion d'une dame, d'une amie, qui, parce qu'on avait nos filles, donc qui avaient, je sais pas, c'est en quelle année
C'est dans les années 70,
je sais pas. 70, c'est ça, oui. Et qui m'a dit, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette phrase, ça me rappelle toujours que, ben, on se demandait si c'était pas vrai quand même. Je dis pas qu'on y croyait, mais vraiment, c'est impressionnant comme ça avait eu un impact sur la population.
Alors, elle disait quoi, cette rumeur?
Ben, peut-être bien que oui, hein, que des juifs, des commerçants juifs, prenaient des femmes qui essayaient dans des cabines et je ne sais plus ce qu'ils en faisaient d'ailleurs.
C'est pour la traite des Blancs, je crois. Enfin, il y avait une histoire de souterrain qui passait.
Oui, des trucs comme ça. Oui.
Les emmener jusqu'à la Loire.
Oui, mais je dis quand même, il fallait être naïf pour y croire. Mais c'est très vague, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'a pas tellement parlé. Mais... Je me souviens que cette réflexion d'une dame qui m'a dit... Peut-être que je mettais en doute ça et qu'elle m'a dit « Oh, mais il n'y a pas de fumée sans feu. »
Donc ça a duré quelques années, alors, en fait
Bon, je crois pas.
Ou un nom, enfin je sais pas.
Oui, je crois pas. J'ai pas trop la mémoire des dates. C'est tout un ensemble, mais j'ai du mal à me rappeler quelle année c'était, combien de temps ça durait.
Enfin, ça a occupé les Orléanais pendant
le culte. Comme quoi.
Et par rapport à la région, Paris, etc., est-ce que vous pensez que la proximité de Paris est une bonne chose pour Orléans, ou est-ce que ça nuit à son développement, ou au contraire, est-ce que c'est positif, parce qu'il y a plein de gens qui vont travailler à Paris?
Bon, moi, je pense que c'est plutôt positif, parce que ça donne quand même du travail à beaucoup de gens. Ils s'en plaignent pas en général, je sais pas.
Vous-même, vous allez régulièrement à Paris ou pas du tout?
Non, pas beaucoup, non. Sauf quand je vais chez Vincent. Il habite dans la banlieue parisienne, donc j'y vais par le train. Et puis, enfin là, je suis allée en voiture avec ma fille, mais sinon, je prends pas la voiture pour aller. Il habite à Houille, c'est la banlieue ouest. Sinon, bon, je change Austerlitz, je prends la gare de RER, la gare de Lyon, j'arrive jusqu'à chez lui. Mais non, je ne fais plus. Je sors pas tellement pour finir.
Et entre Orléans et Tours, est-ce que vous pensez qu'il y a une ville qui représente mieux la région centre que l'autre ? Sur une espèce de petite compétition entre les.
Ben, j'ai tendance à croire que c'est Orléans, mais. Mais pourtant, quand Agnès était étudiante à Tours, c'est vrai que c'est une ville sympathique, Tours.
Comment elle n'a pas fait ses études à l'université d'Orléans?
Elle a commencé et puis elle a préféré après finir à Tours. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute que l'enseignement était meilleur, je sais pas, non, vous ne savez pas hein, qu'il avait, vous avez fait vos études d'anglais ou.
Non, moi j'étais, je suis de Charente, donc j'ai fait mes études à Poitiers.
Oui,
je
ne
connaissais pas du tout Orléans avant d'être nommée ici.
Oui, je pense que la fac d'anglais avait peut-être meilleure réputation à Tours, je ne sais pas.
Souvent les étudiants préfèrent Tours parce que ça bouge un peu plus.
Peut-être, c'était peut-être simplement ça.
Enfin, Orléans se développe maintenant, il y a plus de choses, mais une certaine période, les gens disaient que Orléans c'était un peu la ville endormie, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, je ne sais pas si la réputation est restée.
Je faisais partie, moi, du CESR à Orléans. Vous savez, l'organisme qui prépare la réunion du conseil régional, le comité économique, CESR, comité économique et social de la région, ça doit être ça. Parce qu'il y avait des représentants de tous les syndicats, tant que j'étais au titre de la CFDT, dont je faisais partie. Je faisais partie de la commission formation. Pour prendre les décisions sur les formations à financer, soit pour les demandeurs d'emploi, soit pour les formations professionnelles. Puis j'étais aussi au conseil d'administration de la CAF.
Ah,
J'avais pas mal de détachements aussi.
Beaucoup de choses.
Ouais, bon.
Et vous êtes toujours resté fidèle à la CFDT, vous n'avez pas changé
Oui, je cotise toujours, traité, assemblée générale bientôt. Mais je ne suis pas militante, hein. je continue d'adhérer, et puis bon, je participe aux manifestations. Je ne prends pas de responsabilité. Mais mon mari avait été longtemps permanent syndical à la CFDT. Donc.
D'accord. Et donc là, c'est une question qui est un peu plus. Linguistique, c'est sur la façon de parler qui serait propre à Orléans. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de parler particulière, spécifique? Parce qu'en fait, les Britanniques sont venus dans la région centre. Ils ont sélectionné le Val-de-Loire parce que
on dit qu'on a le meilleur français.
Voilà, qu'il n'y a pas d'accent.
Surtout la Touraine, je crois.
Oui, oui, entre Tours et Orléans. Enfin, qu'il n'y aurait pas d'accent, il n'y a pas ni l'accent parisien, ni l'accent du Nord, ni l'accent du Sud, c'est assez neutre. Donc pour leurs étudiants, ils pensaient que c'était plus facile à comprendre.
Ah, là, je ne saurais pas vous répondre. On ne se rend pas compte si on parle mieux.
C'est peut-être des parlers propres, mais après, c'est plus dans la Sologne ou ces endroits-là.
Ah oui, peut-être, oui.
Parce que vous, votre famille, elle est exclusivement d'Orléans.
Ah oui, oui, oui.
Et par rapport à la famille de votre mari, il n'y a pas de différence?
Oh non, 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 non.
C'est pas assez loin?
Non, non, pas du tout. Non, mais mon père, il était très, très strict pour le français. Fallait pas faire de faute d'orthographe, jamais, et puis pas employer un mot pour un autre et tout. Oh là là, on était. Oui, quand j'entends des fois à la radio ou à la télé des journalistes qui n'ont pas un français très impeccable, je pense toujours à lui parce qu'il était. Oh là là, il était critique pour tout ça, ouais.
Justement, est-ce que vous pensez que les standards baissent, par exemple à la télévision?
Ah, oui.
Il n'y a plus d'accord du parti.
Bon, puis quand on reçoit des mails, je sais bien que les mails, ma fille, elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est parce que les mails, c'est fait pour s'expliquer rapidement, puis si on fait des fautes, c'est pas grave. Mais moi, ça me choque, je peux pas envoyer un mail avec une faute d'orthographe, il faut que je le relise, et puis. Mais c'est vrai qu'on a tendance à. Oh, ça c'est sûr que l'orthographe, le français même.
Et au niveau du parler des jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les différentes associations, est-ce qu'ils ont un parler particulier,
Je contacte pas tellement des jeunes. Non, je peux pas. Je sais pas.
Et vous entendez quelle langue dans le quartier, à part le français? Est-ce qu'il y a des langues? Est-ce que les dames du Sénégal, elles parlent leur
langue? Oui, quand elles viennent toutes les deux et qu'elles parlent leur langue, je me fâche. Je dis, vous venez ici pour apprendre le français. Puis d'abord, c'est pas poli. Je leur dis, vous parlez entre vous et puis. Mais c'est plus fort qu'elle, c'est difficile, elle dit à la copine, sans des choses comme ça, quoi, mais c'est difficile pour elle de parler. Et je crois que c'est comme ça qu'elles n'arrivent pas à parler, parce que dans les familles, on parle la langue, hein, même pour les enfants, c'est dramatique, ils ne parlent pas français dans leur famille, pour ça qu'ils ont du mal à l'école.
C'est eux qui font le lien, en fait, ils apprennent le français à l'école et après ils aident peut-être un peu leurs parents.
On voit la différence quand les parents peuvent aider aux devoirs le soir, puis là ils sont pas aidés.
Et une dernière question, c'est sur la gastronomie. Est-ce qu'il y a un plat particulier à la région orléanaise qui vous vient à l'esprit?
Oh, ben le pétillier. C'est un dessert que j'aime bien faire. Sinon. Pas spécialement.
S'il y a quelque chose de typique à Orléans.
Il y a le cotignac, mais j'aime pas trop. Par contre, la gelée de coin, j'en fais toujours, parce qu'il y a toujours des connaissiers dans le coin. J'aime bien la gelée de coin. Tout le monde est plein. Non, je sais pas.
Et alors, la dernière question, c'est aussi sur la gastronomie, c'est la recette de l'omelette. C'est une question qui a été posée par les Britanniques, parce qu'ils voulaient que leurs élèves aient une recette en français. Ils ont posé cette question parce que c'est une recette assez simple. Ils pensaient que même les hommes pourraient y répondre. Donc, est-ce que vous pourriez me donner votre recette de l'omelette?
Ben, je bats mes œufs et j'ajoute du lait, moi, pour à rallonger quoi, la, l'omelette, et puis sel et poivre, et puis j'ai fait cuire à la poêle dans un peu d'huile et de beurre.
Mmh. Et à quel moment est-ce qu'elle est prête?
Ben, je la fais démarrer à feu assez vif, et puis après je baisse, je mets un couvercle, et puis je la laisse gonfler tranquillement.
Mmh. Et c'est une omelette nature alors, c'est...
Ah oui, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Voilà. Bon, des fois je mets des lardons ou des fois un petit reste de légumes pour l'étoffer. Mmh. En général, je la fais comme ça.
D'accord. Ben, merci bien.
Voilà. De rien.
C'est terminé, enfin presque terminé, parce que là je vais vous donner une petite chose à remplir.